France Inter. Marion Lourd. Le téléphone sonne.
Cet été, ceux qui vous aiment prendront le train pour venir vous voir, ou l'avion, ou le car, ou bien c'est vous qui partirez les retrouver, ou juste vous détendre dans un endroit sympa. Oui, mais tout ça, ça ne sera pas forcément facile, parce que dès début août, après le premier week-end du chassé-croisé, tous les voyageurs sur des trajets longs devront présenter un pass sanitaire, preuve de vaccination ou de test récent négatif à la Covid. Bien sûr, il y a une raison à ça, l'épidémie qui avance, 150% de contamination en plus sur une semaine. Mais si vous aussi, vous voulez avancer, bouger malgré le virus, il vous faudra ce pass avec des tas de questions à la clé. Alors autant avoir le mode d'emploi, c'est la mission du Téléphone Sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le Téléphone Sonne, 01 45 24 7000.
Et pour répondre à toutes vos questions, notre invité, votre invité ce soir, c'est Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous sur France Inter. Une clarification pour commencer, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que dans les lieux de loisirs soumis au pass sanitaire, le masque ne sera plus obligatoire. C'est ce qui est dans le décret qui est paru ce matin. Est-ce que c'est valable pour les trains, les bus et les avions ?
Alors c'est ce qui n'est pas valable pour les trains, les bus et les avions. Et j'avais eu l'occasion de le dire, le port du masque, qui est d'ailleurs très bien porté et depuis le 11 mai dernier dans les transports, reste obligatoire dans les transports et ce au moins jusqu'à la fin de l'été. J'avais eu l'occasion de dire que c'était au moins jusqu'au 30 août, mais je crois qu'il faut simplement le redire. On en parlera certainement, mais le pass sanitaire, c'est un dispositif qui vise essentiellement à inciter à la vaccination. Ce qui protège dans les transports très largement, c'est les protocoles sanitaires de nettoyage, de désinfection et le port du masque, encore une fois très bien respecté par la très grande majorité des Français. Et donc le port du masque demeure obligatoire dans les transports pour l'été.
Attendez, ça c'était vos arguments que vous donniez au début de l'été pour dire on ne va pas forcément mettre en place le pass sanitaire dans les transports?
Non, moi je distingue les choses. D'abord le pass sanitaire, ça sert à faire deux choses. D'abord préserver les libertés de déplacement et inciter à la vaccination. Pourquoi ? Parce que la vaccination seule, et les premiers chiffres sont assez encourageants de ce point de vue-là, nous permettra de sortir de cette affre sanitaire que nous connaissons depuis maintenant plus de 18 mois. Et deuxièmement, dans les transports, nous avons mis en place un protocole sanitaire de protection qui passe par le nettoyage, la désinfection, le fait d'afficher les quais en avance et le port du masque. Et on sait très bien que le port du masque permet, parce que souvent d'ailleurs dans les trains on y reste peu longtemps, on a peu de contact, on parle peu, permet de protéger, et les études sont consensuelles sur le sujet, de façon satisfaisante. Et c'est en tout cas ce que nous souhaitons préserver pour cet été.
Alors une question de calendrier, il doit se mettre en place quand précisément ce pass sanitaire dans les transports ?
Alors vous savez que le texte a été présenté hier soir en Conseil des ministres, qu'il a commencé à être débattu aujourd'hui en commission au Parlement, qu'il a vocation à être débattu jusqu'au début août, et qu'après la loi doit être promulguée et que les décrets doivent être pris. Donc ça nous amène certainement autour de début août, peut-être entre le 5 et le 10. J'aurais du mal à m'engager sur une date précise, ça va dépendre essentiellement du débat parlementaire, mais c'est autour du 10 août, j'imagine, que la mise en œuvre sera effective, et on sera évidemment en mesure de vous donner de plus amples informations dans les prochains jours.
Et est-ce qu'on peut attendre la même souplesse qui est promise par le porte-parole du gouvernement sur, par exemple, les centres commerciaux ? Est-ce qu'on peut attendre la même souplesse dans le train et dans l'avion, les transports ?
Alors, d'abord, plusieurs éléments de souplesse. Le pass, il va être exigé pour les salariés, mais à compter du 30 août. Donc, typiquement, vous êtes salarié d'Air France ou de la SNCF, c'est jusqu'au 30 août et ça a été accueilli de façon favorable. Si vous êtes un enfant âgé de 12 ans et plus, il y a aussi cette tolérance jusqu'au 30 août. Ça permet là aussi, on sait très bien que par nature, les enfants sont moins vaccinés que les adultes. Et puis la campagne de vaccination progresse encore. Donc tout ça permet effectivement un peu de souplesse. Et puis par ailleurs, dans les premiers jours, nous l'avons souvent dit et tout le temps fait, il y aura une phase de pédagogie, d'adoption du dispositif. Et donc nous ferons beaucoup de pédagogie dans les premiers jours. Mais je le dis, dès que la date sera connue et effective, autour de la mi-août, il faudra être doté d'un pass sanitaire. C'est-à-dire, vous l'avez très bien rappelé d'ailleurs, soit d'être titulaire d'un certificat de vaccination, soit d'un test pour pouvoir monter dans les trains longue distance et les avions. Pour les vols intérieurs, les trains longue distance étant essentiellement les TGV, les intercités et les trains de nuit que les Français connaissent bien.
Alors sur l'application concrète de ce dispositif, une question de Marc qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonsoir Marc.
Bonsoir Monsieur le Ministre et bonsoir à l'équipe de France Inter qui fait toujours de très bonnes émissions.
Merci Marc. Voilà. Votre question à Monsieur Djebbari.
Alors, disons que là, de mon côté, j'ai de la chance d'être doublement vacciné et d'avoir pu prendre une partie de mes vacances en juillet. mais d'avance, je me préoccupe pour les Haoussiens. Il me semble que, bien que la date du 30 août semble loin, mais dans la mise en œuvre, ça me paraît assez quand même précipité. Et d'autre part, je vois qu'il y a déjà dans le domaine commercial, des dirigeants qui s'inquiètent pour la mise en œuvre, du coût en personnel supplémentaire pour faire les vérifications. Et dans les transports, on imagine bien que ça va être la même chose. Ce ne sont pas les agents de la SNCF eux-mêmes ou les contrôleurs qui vont contrôler l'attestation. Déjà à ce niveau-là, donc il y a beaucoup de personnel supplémentaire à former très rapidement. Et d'autre part, dans les moments de grand départ, il y a une cohue dans les gares. Et là, de ce fait, ça va encore renforcer les queues. Je m'inquiète pour ça aussi, comment ça va se passer. Puis aussi pour l'usage, pour les voyageurs en tant que tels, présenter le smartphone ou alors moi j'ai une attestation papier, mais s'il faut la présenter souvent, elle risque d'être vite chiffonnée. Et pour l'usage de ça, ça pose pas mal de problèmes et j'aimerais savoir si vous avez déjà des solutions.
Alors merci Marc. Sur ces problèmes pratiques, alors il y en a beaucoup. Marc a fait une très longue liste, ouais. mais effectivement, comment on va gérer ça dans les gares, dans les aéroports? Comment ça va se passer concrètement? Est-ce que vous pouvez nous faire le mode d'emploi pratique?
Assez succinctement mais précisément Marc. D'abord, il y a des choses qui ne changent pas, y compris au mois d'août, dès lors que le pass sanitaire sera exigé, c'est le nombre de trains. Il y aura autant de trains que ce qui était prévu avant l'adoption du pass sanitaire, et les modalités d'achat, de remboursement, d'annulation restent les mêmes.
Ça veut dire que vous n'anticipez pas de baisse de fréquentation?
Pour l'instant, ça ne se démontre pas. Et il y a d'ailleurs un très bon niveau de réservation sur les trains de la SNCF qui est quasiment celui de 2019. Et nous souhaitons évidemment, là aussi, préserver les déplacements et que la SNCF retrouve aussi une forme de santé à l'occasion de cet été. Donc ça ne change pas. Nombre de trains, modalités d'achat, de remboursement. Il y a des choses qui changent, on en a parlé un petit peu, et effectivement ça va s'organiser. Marc y faisait référence en termes de mise en œuvre. Ça va nécessiter le concours de tous les opérateurs. J'avais commencé à les voir avant les annonces, le vendredi d'avant, pour émettre ces hypothèses et commencer à organiser les choses sur le plan très pratique. Ce que nous commençons à voir sur le plan pratique justement, c'est que les contrôles porteront principalement pour les trains à l'abord des quais. Vous savez d'abord que les trains dont nous parlons sont souvent à réservation obligatoire, donc il y a déjà des filtres, soit des portiques, soit des personnels qui en général filtrent les voyageurs. Et puis
ça c'est dans les grandes gares,
dans les grandes gares essentiellement, mais oui. J'y reviens après sur la suite. Nous avons en quelque sorte acquis de l'expérience du fait des séquences précédentes, puisque vous savez que pendant un moment il a été nous avons vérifié les attestations pour notamment permettre les déplacements interrégionaux. C'est une période pas si lointaine. Donc nous avons l'habitude de travailler avec les opérateurs pour mettre tout cela en musique. Donc pour être très concret, il y aura essentiellement des filtres dans les grandes gares, à l'abord des quais, dans les gares moyennes, quand c'est possible, et nous travaillons dans les différentes configurations. Il y aura possibilité de contrôle à bord des trains de façon plus aléatoire par l'ensemble des personnels disponibles, qu'ils soient contrôleurs, qu'ils soient de la police ferroviaire, de la police, de ce qu'on appelle la SUGE, qui est l'organisme de sûreté interne de la SNCF. Mmh. Et puis il y aura des possibilités de contrôle à l'arrivée, à destination, y compris d'ailleurs en incluant le renfort des forces de l'ordre, qui sont aussi évidemment rompues et assermentées pour le faire. Mais encore une fois, ça c'est le dispositif en quelque sorte de contrôle. Nous comptons évidemment sur ce qui, je le dis, a été très bien respecté pour le masque, sur l'adhésion aussi de la population à cette mesure qui vise encore une fois à sortir par le haut de cette crise en se vaccinant et puis à préserver la liberté de déplacement de tous. C'est quand même l'objectif principal recherché de notre côté.
Fréquent, pas fréquent les contrôles? Parce que déjà, est-ce que la SNCF a le personnel nécessaire pour faire ces contrôles-là? Et finalement, pour les masques, on en voit assez peu souvent des contrôles.
Des contrôles, il y en a pour les masques, il y en a eu des contrôles fréquents. Vous savez qu'aujourd'hui, les opérateurs de sûreté notamment sont assermentés pour verbaliser le port du masque, qui est très bien porté. Je le disais, depuis le 11 mai, tout de suite, ça a été quasiment 95% de respect du port du masque, et ça s'est très largement confirmé par la suite. Donc, des agents, il y en a qui sont disponibles, qui seront évidemment formés, qui pourront être complétés. On aura des contrôles qui seront à la fois massifs, notamment pour les flux importants, qui seront peut-être plus aléatoires. Et nous le faisons d'ailleurs déjà, par exemple, sur les routes, parce qu'on parle souvent des trains et des avions, mais évidemment, sur les routes, nous le faisons aussi.
Et qui ne sont pas soumises au pass sanitaire, elles?
Alors, les routes, de la même façon, pas soumis au pass sanitaire pour les déplacements intérieurs, puisqu'encore une fois, le sujet, c'est, je l'ai dit, de préserver les déplacements à longue distance et d'y porter une incitation à la vaccination. En revanche, si vous voyagez à l'extérieur de la France, notamment en territoire européen, vous êtes aussi soumis au pass sanitaire. Et là, il y a des contrôles, y compris pour les frontières terrestres. Je le sais parce que j'ai eu pas mal de demandes, notamment vis-à-vis de l'Espagne. Certains cherchaient à avoir les bonnes informations pour passer en évitant les contrôles. Mais il y a des contrôles, il y a des refus d'entrée dans le territoire qui sont nombreux. Il y a 15 jours, nous avons refusé par exemple 600 personnes à la frontière franco-espagnole. Donc il y aura des contrôles, évidemment, là aussi, en intra-européen, sur le plan des routes.
Alors, justement, question de Florence de Tours. Nous partons en Espagne au mois d'août. Je suis vaccinée, mais pas ma fille de 16 ans. Pour notre retour en France, elle doit faire un test Covid. S'il est positif, pourra-t-elle rentrer quand même et s'isoler en France ?
Alors, plusieurs questions. D'abord, la vaccination sera obligatoire. En tout cas, le pass sanitaire sera exigé pour les enfants de plus de 12 ans à compter du 30 août. Donc, ça laisse un petit peu de tolérance. Et de toute façon, depuis le début de cette ère du Covid, nous avons toujours permis aux Français de rentrer en France chez eux. Le cas échéant, ils sont pris en charge sur le plan sanitaire à leur arrivée quand c'est leur demande. Ils peuvent être, puisque c'est le cas des enfants, être isolés à leur domicile avec leurs parents et pris en charge sur le plan sanitaire, c'est bien sûr l'essentiel. Donc la réponse est oui.
Donc ça veut dire qu'elle peut prendre le train, même si elle est positive ?
Ça veut dire qu'elle sera prise en charge. Alors, ce qu'on recommande, c'est évidemment d'avoir d'abord un avis médical sur place, et c'est le médecin qui, in fine, juge de la condition. Mais je ne veux pas anticiper le fait que cette personne serait positive à son endroit de vacances. La plupart du temps, effectivement, il y a une prise en charge sur place. Et dès lors que la personne est réputée ne plus être contagieuse, elle peut effectivement reprendre son périple sous réserve de l'avis médical.
Question de Patrick, qui nous appelle de Bretagne. Bienvenue Patrick, bonsoir.
Bonsoir.
Votre question au ministre.
Une question simple, j'espère une réponse courte et précise.
On ne vous entend pas très bien, Patrick, si vous pouvez nous parler un tout petit peu plus fort.
Ah, vous savez, nous sommes au bout du monde ici. une question simple et une réponse, si possible, courte et précise. Une personne sous traitement médical qui ne lui permet pas actuellement de se faire vacciner, comment fait-elle pour avoir un pass sanitaire ?
Alors, pour répondre à Patrick de façon courte et synthétique, le pass sanitaire, c'est le vaccin, le certificat de vaccination ou un test négatif. Donc la personne pour laquelle le traitement effectivement ne permet pas d'être vaccinée peut être munie d'un test ou d'ailleurs d'un certificat quand cette personne a attrapé le Covid et qu'elle en a été guérie. Donc pour cette personne très concrètement, si elle a un test, cela suffit.
Et on a le même genre de question qui nous vient de Stéphanie, hein, par mail, qui nous écrit: ma fille va avoir 12 ans le 24 août, nous prenons le train pour rentrer chez nous le 28 août, nous, ses deux parents sommes vaccinés, mais pas elle, que faire? Un test. Donc c'est ça la réponse.
Donc un test, et je le disais en plus, le pass sanitaire pour les enfants de 12 ans et plus ne sera pas, entre 12 et 18 ans pour être précis, ne sera pas exigé avant le 30 août. Donc en l'occurrence, pour cette personne, elle peut avoir un test, mais le pass sanitaire ne sera pas exigé pour son enfant.
Malgré tout, il y a quand même une question sur les délais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes de rendez-vous, de vaccination, donc c'est pas toujours facile de se faire vacciner. Résultat, il faut un test, mais les centres de tests sont aussi pris d'assaut. Et donc, est-ce qu'il va y avoir des infrastructures de tests qui vont être installées dans les aéroports, dans les gares? Est-ce que ça, c'est prévu? Est-ce que c'est au programme?
Alors, plusieurs éléments là aussi, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur le sujet. D'abord dire que il y a eu beaucoup, et c'est une bonne nouvelle, il y a eu beaucoup de demandes de vaccination ou de rendez-vous pour une vaccination. Je crois que c'est 7 millions de requêtes qui ont été faites et plus de 4 millions de rendez-vous qui ont été pris depuis l'annonce du président de la République le 12 juillet. Donc c'est une bonne nouvelle. Nous avons les doses pour le faire. De mémoire, nous recevons sur l'ensemble de l'été, rien que pour Pfizer, BioNTech, environ 20 millions de doses. Donc il y aura des doses. Et après, la logistique, c'est celle que vous décriviez, c'est-à-dire mettre les doses dans les bons centres de vaccination et puis, quelque part, adresser le flux entrant des personnes qui veulent se faire vacciner.
Il y a quelques jours, il y avait quand même 17 jours de délai, donc ça veut dire
oui,
des passes
qui vont
sanitaires.
Se résorber. On a quand même eu un gros pic de demandes, évidemment. Et après, il y a le sujet, effectivement, pendant, qui est le problème des tests, alors qui va aller diminuant, parce que plus vous avez de population vaccinée, moins vous avez besoin de tests. On sait très bien qu'au 1er août, on aura quand même plusieurs millions de personnes qui vont demander des tests. Donc aujourd'hui, il y a, dans les différents centres accueillants du public, c'est notamment le cas des aéroports et des gares, puisque nous en avions mis en place un certain nombre dans les grandes gares, des centres qui permettent de délivrer des tests rapides. Il y a les pharmacies, il y a évidemment les médecins qui sont mobilisés. Bref, on a à la fois des tests gratuits en France et un grand nombre d'endroits dans lesquels il est possible de le faire, avec ou sans rendez-vous, avec des délais de réponse très courts. J'ai eu l'occasion de le tester pour moi-même encore ce matin.
Donc pas dans les gares ni les aéroports?
Il y a déjà, à l'abord des gares, Gare de Lyon c'était le cas, à Bordeaux dans les gares, des centres de tests qui ont été mis en place par des partenaires et qui sont toujours actifs et qui ont vocation à fournir ce service-là, avec ou sans rendez-vous d'ailleurs.
On parlait des gares tout à l'heure, on en parle encore. Pour l'avion, pour le bus, le car longue distance, ça va se passer comment? C'est aussi des contrôles plutôt avant le départ et à l'arrivée, que ça fonctionne comment?
C'est un sujet qu'on est en train de débattre, en tout cas d'organiser avec les opérateurs de car qui ont des spécificités. C'est souvent d'ailleurs des opérateurs un peu moins étoffés en termes d'effectifs que la SNCF ou la RATP ou d'autres, ou les compagnies aériennes pour prendre un autre exemple. Donc on est en train de discuter avec eux. Par ailleurs, il y a souvent des possibilités de le faire dans les gares routières au moment où vous embarquez. Mais c'est vrai que c'est un sujet que nous sommes en train d'organiser avec eux pour que ce soit relativement fluide et sécurisant aussi pour ceux qui conduisent ces cars, et puis que ça apporte le même niveau de protection ou d'exigence vis-à-vis de la population qui vont fréquenter ces cars longue distance cet été. Donc c'est un vrai sujet d'organisation que nous sommes en train de mettre en musique avec eux cette semaine.
Et pour l'avion?
Pour l'avion, c'est un peu plus simple parce qu'en vérité, d'abord, les aéroports sont dimensionnés pour accueillir, pour gérer des files. Et puis, depuis maintenant plus d'un an et demi, nous vivons sous un régime où il faut des tests pour prendre l'avion. Donc, les personnels sont formés, sont habitués. Le pass sanitaire est obligatoire depuis le 1er juillet pour l'ensemble des vols intra-européens. Et donc, en quelque sorte, il y a une acculturation, une adoption qui s'est faite de façon beaucoup plus rapide pour l'aviation.
Donc pareil, contrôle avant le départ, ou c'est ça, on se contente de lier
essentiellement l'embarquement. Et puis d'ailleurs, j'ai pas répondu sur un sujet qui est important, qui est le sujet de la facilitation par le digital. On a fait une expérimentation avec Air France il y a maintenant quelques jours sur la Corse et les Outre-mer pour, en quelque sorte, je le dis simplement, lier le pass sanitaire ou les documents sanitaires avec le billet d'avion.
C'est ready to fly, ça s'appelle
absolument
comme ça.
Et donc,
ça, la SNCF ne sait pas le faire, mais Air France sait le faire.
Alors la SNCF est en cours travaille sur des expérimentations. Air France a déjà lancé la chose. Nous allons industrialiser en quelque sorte le procédé. Mais l'idée, c'est ça. C'est encore de gagner du temps et de la fluidité. Quand au moment de l'enregistrement, vous éditez votre boarding pass, ça fait un lien avec les informations du QR code du pass sanitaire, et ça vous permet de gagner du temps dans les files d'attente, et c'est l'objectif que nous sommes en train de poursuivre pour son application dans le ferroviaire.
Alors, question de Pascal en Rhône-Alpes. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Vous appelez de Lyon et vous allez prendre un peu beaucoup l'avion dans les jours qui viennent.
Fin août, début septembre, voyage boulot en Hongrie, Autriche, Allemagne, procédure différente dans chaque pays. La question est brève, est-ce que l'Europe n'a-t-elle pas explosé avec le Covid-19?
Et question pratique aussi, effectivement, comment faire, monsieur
Pascal,
le ministre?
Mais je comprends d'ailleurs, ça a été une des difficultés. On a voulu assez rapidement harmoniser les choses au niveau européen, force est de constater que ça a été compliqué. Et qu'encore aujourd'hui, on a un socle de règles communes, notamment l'usage du pass sanitaire. Donc depuis le 1er juillet, c'est effectif. Et chaque pays a reconnu les systèmes sanitaires des autres. Et donc le pass, pour le coup, est bien opérationnel. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, les pays que Pascal a cités, mais d'autres, la Grèce, demandent des formalités complémentaires. Et donc moi j'engage, mais c'est un message de recommandation et de bon sens, j'engage chaque Français qui voyage, y compris dans l'espace européen, à bien regarder sur le site du ministère des Affaires étrangères quelles sont les modalités qui s'appliquent. Parce qu'effectivement, il est déjà arrivé, moi j'ai beaucoup de contacts à ce sujet, que des personnes arrivent à l'embarquement et s'aperçoivent qu'elles auraient dû s'enregistrer 24 heures avant sur le site grec pour aller en Grèce, par exemple. Donc vraiment, être titulaire des documents sanitaires français et européens, c'est important, et surtout, bien vérifier que les pays accueil ou les pays de visite, de destination, de tourisme ou d'affaires, qui ont parfois des procédures complémentaires, bien vérifier que vous êtes à jour de ces procédures également.
Alors ça, c'est pour l'espace européen. Oui. Pour le côté mondial, ça reste encore assez compliqué. Là-dessus, on a Marcel qui nous appelle d'Angers. Bonsoir Marcel.
Bonsoir madame.
Votre question, Marcel.
Oui, bonsoir messieurs, dames. Eh bien voilà, nos enfants arrivent des États-Unis. Le 2 août, ils débarquent à Roissy. Ils ont été vaccinés par le Pfizer. Ils n'ont que un papier de vaccination. Ils n'ont pas de pass sanitaire européen. Ils n'ont pas de certificat Covid. Comment peut-il voyager en France?
Monsieur le ministre, alors comment on fait avec les autres pays?
Plein de questions, y compris sur les États-Unis d'Amérique, j'y répondrai peut-être. En l'occurrence, ce qu'on est en train d'essayer de construire, ou de construire plus précisément, c'est que toutes les personnes, a fortiori françaises, qui ont été vaccinées avec des vaccins approuvés par l'Agence médicale européenne et les autorités sanitaires françaises. Et Pfizer est évidemment un des vaccins qui est approuvé à la fois en France et en Europe, pourront transformer ce vaccin en un passe sanitaire français. Alors, il faut faire...
Pourront quand et comment ?
Alors, c'est le sujet. C'est qu'on est en train de construire techniquement, faire en sorte que ce soit interopérable. Et Marcel l'a très bien dit, les États-Unis ont vacciné très vite, mais essentiellement sous format papier. Donc, il n'y a pas de système centralisé comme chez nous. Et donc, quand on a eu cette discussion mi-juin à l'échelle du G7, on s'est aperçu qu'un certain nombre de pays, dont de mémoire le Canada, les États-Unis, n'avaient pas centralisé ni digitalisé. Donc, on est en train de résoudre ce problème-là, en quelque sorte, mais pour le coup, la France, qui parfois a été critiquée pour son centralisme et parfois la célérité avec laquelle nous avons mis le système en place, dispose aujourd'hui d'un système très robuste, parce que centralisé, et très efficace pour la mise en place de ce pass sanitaire.
Mais donc, si les enfants de cet auditeur de Marcel arrivent des États-Unis sans pouvoir avoir leur passe, comment ça va se passer s'ils l'ont pas à temps par rapport au calendrier que vous avez fixé, vous, au gouvernement ?
Non, mais d'abord, le passe, encore une fois, c'est un test ou un vaccin.
Mais un test, c'est payant aux États-Unis.
Oui, bien sûr. Je le lis dans le... pire des cas, c'est un test ou un vaccin. Ensuite, nous sommes en train de travailler maintenant pour que ce soit efficace à compter, je l'ai dit, de la mi-août. Donc, on a encore quelques jours. Donc, le 2 août, on peut penser que le procédé ne sera pas encore complètement mis en œuvre. Puis, par ailleurs, et de façon constante depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons toujours permis aux Français qui sont à l'étranger de revenir en France. Singulièrement, en plus, qu'ils sont résidents français. Aux Français soient résidents en France. Donc, voilà, on pourra répondre plus précisément à la question de Marcel s'il le souhaite. Mais je n'anticipe pas de difficultés particulières pour que des Français vaccinés et résidents en France puissent rentrer. Plus compliqué dans l'autre sens pour repartir aux États-Unis, qui aujourd'hui pose un cadre très restrictif pour des raisons de protection vis-à-vis du variant Delta, qui, comme vous le savez, est particulièrement actif en Europe.
Alors la suite de la question de Marcel, c'est ce qu'on me dit en régie, c'est qu'en fait il arrive à Roissy, il doit rentrer chez lui en Bretagne. Comment il fait pour prendre le TGV ? Puisqu'il n'a pas de passe sanitaire. Là, il peut faire un test à la gare, enfin à l'aéroport en arrivant.
Alors oui, mais en espérant, et je forme l'espoir que d'ici effectivement à cette date, nous soyons arrivés à faire cohabiter les différents systèmes et à ce que très rapidement, il puisse se connecter sur les bonnes plateformes et bénéficier, parce que c'est pour le coup très rapide, une fois que les connexions sont faites. Air France l'a fait en quelques jours, en quelque sorte lier le billet et le pass sanitaire. Donc je forme le souhait que cela soit mis en place très rapidement.
Alors on a une question d'un auditeur sur l'application France Inter, qui ne nous a pas laissé son nom. Mon abonnement Travail TER est adossé à une option TGV pour pouvoir les utiliser sur mon trajet domicile-travail. Autrement dit, il utilise le TGV pour de la courte distance. Est-ce que là, il doit présenter un pass sanitaire ou non ?
Mais d'abord, je l'ai dit, il y a environ 400 000 personnes qui, chaque jour, prennent le train longue distance. Même parmi ces 400 000 personnes, il y en a entre 15 et 20% de personnes qui travaillent et qui donc utilisent des trains longue distance pour travailler. Donc, on a voulu faire quelque chose de relativement simple et contrôlable. Donc, toutes les personnes qui utilisent les trains, y compris celles qui l'utilisent pour des motifs de travail, doivent présenter un pass sanitaire. C'est ça l'objectif. Et là, évidemment, quand c'est en plus récurrent, l'incitation à la vaccination est de fait... amplifié.
Même sur des courtes distances. Donc, c'est le type de train que l'on prend.
C'est le type de train, quelle que soit la desserte, le type de train que l'on prend, donc les TGV, les intercités et essentiellement les trains de nuit qui sont soumis au pass sanitaire à compter de la mi-août, en tout cas de la mise en vigueur du dispositif.
Alors, Frédéric nous appelle de Seine-et-Marne. Bonsoir, Frédéric.
Oui, bonsoir.
Vous aviez une question pour Jean-Baptiste Djebaré.
Oui, tout à fait. Elle reprend une partie des réponses que nous vient d'avoir. J'aimerais bien savoir la cohérence du dispositif qui va être mis en place, puisque pendant des mois, on a demandé aux gens et on a imposé aux transporteurs de mettre en place uniquement les gestes barrières, y compris dans les trajets du quotidien, les TER, les Transiliens, etc. Et que maintenant, sur les trajets longue distance, voire des trajets plus courts de distance, l'auditeur précédent en parlait, des trajets d'une heure, eh bien, on vient mettre en place un pass sanitaire qui impose une vaccination ou PCR, etc. Alors que dans les TGV, par exemple, ou dans les TER, on sait très bien que la disposition des voyageurs et le nombre de voyageurs est beaucoup plus faible que dans les trains du quotidien, les trains de banlieue, les TER périurbains, et qui, eux, ne peuvent pas respecter les gestes barrières. La cohérence du dispositif ne me saute pas aux yeux. Mmh. Et je compléterai avec une petite information concernant les mesures de dioxyde de carbone qui sont réalisées dans les TGV. Je ne comprends pas pourquoi on sait que le taux de dioxyde de carbone correspond à une qualité de ventilation des trains. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place des mesures de taux de CO2 dans les trains? Ça ne veut pas dire que plus il y a de CO2, on est sûr et certain d'attraper la Covid. Mais par contre, plus il y a de taux de CO2 dans un train, plus on est sûr que la ventilation est mauvaise.
Merci Frédéric. Jean-Baptiste Djebari, sur les CO2, ouais. Très vite peut-être, après on reviendra sur le choix TGV.
J'ai répondu à plusieurs reprises. Ça fait écho à une polémique qui a été lancée il y a quelques semaines maintenant et qui reprenait des études qui n'avaient d'ailleurs rien à voir avec le ferroviaire pour dire pourquoi vous n'appliquez pas ce qui est fait par exemple dans les classes avec des seuils d'alerte de CO2 dans les trains. La raison, c'est que depuis 18 mois, nous avons d'abord observé ce qu'ont fait les voisins, mis en place des systèmes de veille sanitaire, mis en place des protocoles sanitaires, vérifié que les circuits de ventilation et de conditionnement d'air satisfaisaient les normes en vigueur, et nous n'avons pas observé, notamment dans le TGV, que avec tout ce protocole mis en place, avec également la désinfection, le nettoyage avec des produits virucides, le port du masque, nous avons observé que les transports en commun, et notamment les transports longue distance, étaient des lieux de propagation de particules du virus. Et ça, toutes les études en France, aux États-Unis, au Japon, dans les pays asiatiques, au Royaume-Uni, bref, tous les pays ont les mêmes études et les mêmes résultats.
Alors pourquoi on impose le pass sanitaire dans ces...
Donc du coup, ça répond à la question, le taux de CO2 est raison. Enfin, nous avons un protocole sanitaire robuste. Et la deuxième partie de la question, en tout cas la première partie de la question plutôt, que Frédéric posait, sur la cohérence. J'ai essayé de l'expliquer en préambule. Le pass sanitaire, ça vise à préserver la liberté de déplacement et à inciter à la vaccination. S'agissant du protocole sanitaire, il ne change pas. Il ne change pas dans les transiliens, il ne change pas dans les TGV, il ne change pas dans les intercités, il ne change pas du tout. Le protocole sanitaire dans tous les trains et dans tous les avions, c'est nettoyage, désinfection, gestes barrières, gel hydroalcoolique disponible, port du masque obligatoire. Et il ne change pas, c'était votre première question. Il ne change pas maintenant, il ne change pas demain, il ne change pas après le 10 août, et il ne change pas jusqu'à nouvel ordre dans les transports. Donc de ce point de vue-là, la sécurité sanitaire, elle est assurée par le protocole sanitaire.
Oui, mais lui,
qui a démontré sa robustesse. Non, il pointait une forme d'incohérence, et j'essaie de démonter ce procès en incohérence.
Mais finalement, est-ce que ça inciterait pas aussi à se vacciner, de mettre en place le pass sanitaire dans les trains régionaux, si on suit votre logique?
Oui, mais après, du coup, la réponse est plutôt oui, mais vous avez vu que d'abord, il y a une question d'effectivité du dispositif. On parlait de 400 000 personnes par jour dans les trains longue distance, c'est plusieurs millions de personnes par jour dans les trains, dans les transports du quotidien.
On n'a pas les moyens.
Et que par ailleurs, si on cherche, on n'a pas les moyens du contrôle effectif, évidemment, et par ailleurs, si on cherche l'incitation, vous avez vu que l'incitation porte sur d'autres activités. Aujourd'hui, le cinéma, bref, des activités sociales qui vous incitent à être vacciné. Donc, on recherche l'incitation par d'autres moyens que l'application du pass sanitaire dans les transports du quotidien.
Et ça sera jamais étendu au transport du quotidien, le pass sanitaire?
La crise nous a appris à être prudents sur les paroles et les prévisions que nous faisions, mais moi, je défends cette position, j'ai défendu cette position au gouvernement de l'appliquer de façon effective aux trains et aux avions longue distance. Démontrons déjà que cela marche. Espérons que c'est un effet très positif sur la vaccination, parce que le but n'est évidemment pas la brimade. Le but, c'est de s'en sortir collectivement, de préserver encore une fois l'été des Français, les déplacements des Français, de le faire dans les conditions les plus favorables possibles, et de s'en sortir collectivement. Ça ne fait plaisir à personne que de poser des restrictions depuis plusieurs mois maintenant.
On parlait du masque qui va rester au moins jusqu'à fin août dans les trains, dans les transports. On a une question de Guillaume par mail qui nous dit: pour les trains de nuit, trouvez-vous raisonnable de dormir avec un masque?
Alors d'abord, il y a effectivement théorie et la pratique. Dans les trains de nuit, ça dépend si vous êtes sur une couchette tout seul et relativement espacé, ou sur des sièges inclinés avec des voisins, par exemple. Donc, pour avoir pratiqué ces trains de nuit encore récemment, il y a différentes écoles sur le sujet. Mais oui, le principe, c'est que quand vous montez dans le train, quand vous vous déplacez dans le train, et quand vous êtes sur un siège incliné, par exemple, à côté d'un voisin, vous portez le masque. C'est le principe.
Même pour dormir?
Après, en réalité, oui, je ne suis pas tout à fait hors sol, je sais très bien que quand vous êtes dans votre couchette tout seul et que vous dormez, vous ne portez en général pas le masque ou alors il est un petit peu bas sur votre visage, vous voyez.
Alors, une question d'un auditeur également par mail. Comment comptez-vous gérer les cas des personnes positives mais vaccinées, donc possédant le pass sanitaire? Actuellement, elles peuvent passer les frontières sans problème grâce à ce pass sanitaire. Donc on ne saura pas qu'elles sont positives en réalité si elles disposent de ce pass sanitaire et qu'elles sont vaccinées.
Alors, quand les personnes sont... Alors, d'abord, si les personnes sont positives, c'est qu'en général, elles ont été faire un test. Donc, elles sont positives et en général, les personnes sont raisonnables et elles se font traiter parce que le Covid, c'est... Et on l'a vu, c'est une maladie, en tout cas une pathologie qui n'est pas tout à fait vénielle. Avec d'ailleurs, on voit de plus en plus, on commence à avoir du recul sur les Covid longs, bref. Donc, on peut effectivement accumuler les cas théoriques de contournement. La réalité, c'est qu'une personne positive, dans 90% des cas, elle se fait traiter. Elle ne cherche pas forcément à contourner la règle et à passer. Donc c'est, moi, je m'en remets aussi à ça. Dans toute stratégie, dans toute politique sanitaire, il y a évidemment la recherche de l'adhésion de la population et l'espoir, mais qui est très souvent confirmé, de la responsabilité individuelle. Je m'en remets à ça. Je ne doute pas qu'on peut accumuler les cas de contournement ici et là. Mais le but, c'est aussi d'appeler à la responsabilité des Français qui, encore une fois, ne nous ont pas attendus pour l'être responsables.
On entend beaucoup les discours et les questions qui sont un peu réticentes vis-à-vis de ce pass sanitaire. À l'inverse, on pourrait tenir un raisonnement différent. C'est-à-dire, est-ce que finalement, attendre après le 1er août pour le mettre en place, vu la progression actuelle, on a vu 150% de progression de cas de contamination journalier en l'espace d'une semaine, est-ce que attendre après le 1er août, c'est pas finalement un peu tard par rapport à la progression du variant Delta?
D'abord, vous avez raison de dire que c'est un peu une course de vitesse. Et on voit que le variant progresse vite, mais on voit aussi que dans les pays qui ont vacciné tôt, c'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas d'Israël, on a des effets très bénéfiques de la vaccination, avec beaucoup moins d'hospitalisations, beaucoup moins d'essais, beaucoup moins de formes graves. Olivier Véran a affiché à cet égard des chiffres éloquents. Et donc il y a un bénéfice très, très net à la vaccination. Après, il y a le domaine de la loi, en quelque sorte, et il faut une loi pour mettre en œuvre cette mesure pour les transports longue distance. Donc il y a le temps parlementaire, qui est un temps assez raccourci, puisque nous avons, le président a parlé le 12, le projet de loi a été élaboré et présenté hier, il est débattu dès aujourd'hui, pour une promulgation qui vise le début, entre le début et la mi-août. Donc c'est le minimum du temps démocratique utile pour mettre en place de telles mesures.
Et on parlait tout à l'heure de la tolérance, de la période de rodage, je crois que c'était ça les mots du porte-parole. La première amende dans un train, dans un avion, ça sera quand?
Moi, j'ai pas envie de dire comme ça, j'ai envie de dire qu'il y a... Parce qu'il n'y a pas d'objectif chiffré de mettre des amendes, évidemment, l'idée c'est que ce soit respecté.
Non mais quand est-ce qu'on commence à sanctionner?
On a toujours fait en sorte d'avoir quelques jours, en général 48 heures, de pédagogie de rodage, pour le dire comme ça. Et après, je le dis, dans 99% des cas, ça se passe extrêmement bien. Après, il faut un dispositif de sanctions parce que toute politique, encore une fois, sanitaire, il y a le respect, la confiance et le contrôle. Et donc, nous aurons un dispositif qui permettra effectivement, d'infliger des amendes pour ceux qui ne respecteraient pas les règles. Mais il n'y a pas d'objectif chiffré pour se dire qu'à compter de 48 heures, nous tombons de façon stricte et définitive sur ceux qui seraient les contrevenants. Mais il y aura effectivement des amendes de 135 euros. Qui nous permettront, comme pour le port du masque, de sanctionner ceux qui délibérément décident de ne pas respecter les règles.
Attendez, c'est pas les mêmes échelles d'amende que pour...
Non, il y a deux échelles d'amende. D'accord. Il y a des échelles d'amende pour, finalement, je dis simplement les employeurs, ceux qui organisent les contrôles. Donc c'est les fameux chiffres que vous avez pu entendre, des 1500 euros qui peuvent monter jusqu'à 9000 euros en cas de récidive. Et il y a, comme pour le port du masque, pour les usagers, ceux qui ne respecteraient pas ni le port du masque, ni... la présentation du pass sanitaire, des amendes qui commencent à 135 euros, qui peuvent monter à 200 euros en cas de récidive dans, je crois, les 15 jours, et qui peuvent encore monter en cas de troisième récidive à 3750 euros dans les 30 jours. Donc vous voyez, c'est un dispositif qui est dissuasif, mais progressif.
Tout ça, ce dispositif de contrôle et d'adaptation en fait, au pass sanitaire, ça demande de l'argent pour les entreprises, pour les opérateurs. Qu'est-ce qui va endosser ce coût?
Mais d'abord, c'est vrai, ça demande de la disponibilité, du travail, de l'organisation. Ça a un coût financier. S'agissant de la SNCF, je crois pouvoir dire ici que nous n'avons jamais calé devant les investissements. J'étais encore tout à l'heure avec un des dirigeants de la SNCF sur le sujet. Je le dis, mais aux auditeurs, nous aurons investi pour la SNCF 75 milliards d'euros en 10 ans. Donc c'est évidemment tout à fait inédit et incomparable avec ce qui a été investi précédemment par un
pas seulement pour l'adaptation à la crise sanitaire.
Évidemment pour l'ensemble de l'action. Mais c'est vrai que c'est un coût. L'action sanitaire, le fait d'avoir des produits de nettoyage, virucides, le fait évidemment de mettre des personnels pour contrôler, d'habiliter les personnes, ça a un coût qui n'est pas encore précisément chiffré, mais sur lequel nous faisons, nous posons des clauses de revoyure avec les opérateurs pour éventuellement les compenser de ce coût-là, ou trouver des modalités qui nous permettent voilà, de neutraliser les effets Covid, comme on dit, de leur trajectoire budgétaire.
Et socialement, c'est acceptable? Aujourd'hui, je crois qu'il y avait une réunion entre les ressources humaines de la SNCF et les syndicats. Est-ce que les contrôleurs, par exemple, sont prêts à aller contrôler les
passagers? On y travaille, vous savez, c'est un travail de dialogue, d'échange, de conviction, débat argument contre argument. Je pense que tout le monde, en tout cas la majeure partie de la population, a conscience que se vacciner c'est important, que se vacciner c'est un peu notre salut collectif, et encore une fois les chiffres parlent, sont éloquents pour eux-mêmes. On sait aussi très bien que, comme partout dans la société, il y a des personnes qui sont retardataires, qui sont rétives, qui sont interrogatives, et puis parfois qui sont réfractaires, et ça reste là aussi une minorité de la population, comme dans la société, cela reste une minorité, et nous faisons ce travail de conviction, de construction avec eux des modalités, en étant assez fermes sur les principes, comme nous essayons de le faire depuis le début de cette crise.
Donc il n'y aura pas une grande grève liée au pass sanitaire, vous anticipez pas ça en tout cas.
Je n'espère pas, et je crois que vous voyez, la SNCF a envie de, et la très grande majorité des agents a envie de transporter dans des bonnes conditions les Français cet été, et c'est à ça que tout le monde est attelé aujourd'hui.
Alors encore une question sur les voyages à l'étranger, hein, ça, nos auditeurs ont l'air de beaucoup bouger cet été. C'est une question de Anne qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question. J'aimerais savoir ce qui est envisagé pour les personnes qui ont été infectées à l'étranger hors Union européenne. Il semble que leur contamination ne puisse pas être transformée, enfin ne puisse pas donner lieu au QR code. Alors comment faire? Ces personnes-là sont guéries, ne peuvent pas être vaccinées avant minimum 2 mois. Est-ce qu'une sérologie attestant de la présence d'anticorps pourrait permettre d'obtenir ce fameux QR code par exemple?
La réponse de Jean-Baptiste Djebari.
Alors, il y a plein de cas et tout cas, mais bon, le principe général, c'est ça. Le principe général, de toute façon, c'est vous avez été atteint du Covid et guéri, vous êtes vacciné, vous avez un test, on fait en sorte, y compris à l'étranger, on fait en sorte que, dans le principe général, vous puissiez bénéficier d'un pass sanitaire si vous répondez à ces critères. Pour la vaccination, vous devez avoir été vacciné avec un vaccin reconnu par la au niveau européen, par l'Agence médicale européenne ou par les autorités françaises. Et pour les certificats de vaccination, on a ce même sujet que pour les États-Unis. Bien souvent, souvent d'ailleurs, les systèmes sanitaires se reconnaissent entre eux, mais on a effectivement ce problème d'authentification des certificats de vaccination. C'est encore, je ne vais pas botter en touche comme tout à l'heure, mais c'est encore un sujet connu, en train d'être traité en vue de la mise en place du pass sanitaire. Mais c'est un sujet effectivement un peu compliqué.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des restrictions locales qui seraient mises en place en fonction des taux de contamination d'un département? Vous disiez pas d'extension du pass sanitaire au transport du quotidien, mais si jamais dans un département, les Pyrénées-Orientales par exemple,
le Charente-Maritime. C'est déjà le cas. Ce qui est en train d'être construit, c'est qu'effectivement, nous posons les seuils au-delà desquels des restrictions sont possibles, et notamment à la main des préfets, mais on a vu que d'ores et déjà des maires avaient pris des arrêtés pour par exemple rétablir le port du masque à l'extérieur ou pour limiter effectivement les jauges ou les horaires de certains établissements. Donc ce cadre-là est aussi posé dans la loi. Pour partie d'ailleurs, il est déjà effectif par décret, et ce n'est pas dans l'ordre effectivement de l'impossible. Donc nous l'observons d'ores et déjà dans les Pyrénées orientales, dans les Pyrénées atlantiques de mémoire, ou même sur certaines communes et îles de la Charente-Maritime, il y a eu des maires qui ont pris des arrêtés en ce sens.
Il y a aussi la question du covoiturage. Comment on fait pour contrôler un pass sanitaire dans les entreprises de covoiturage?
Le covoiturage n'est pas concerné stricto sensu par...
Ça peut être de la longue distance.
Oui, bien sûr, mais on a évoqué tout à l'heure le fait que le transport terrestre, au sens la voiture, n'est pas concerné, que, encore une fois, ce qui est recherché, c'est la conciliation des déplacements personnels et l'incitation à la vaccination, et que une personne, dans sa vie quotidienne, est très largement incitée par l'exigence du pass sanitaire dans différents compartiments de la vie sociale, notamment. Et c'est donc pour ça que nous avons choisi de concentrer l'application du pass sanitaire sur... les transports en commun longue distance.
Alors, dernière question avec une réponse très courte, s'il vous plaît.
J'espère.
Mina de Paris, personne handicapée, malvoyante et mal à l'aise avec la technologie. Je n'ai pas de smartphone, donc pas d'accès à l'application. L'attestation papier que l'on m'a donnée après la vaccination suffira-t-elle?
Fonctionne, évidemment. Réponse courte, question courte, réponse courte, papier ou digital, tout cela fonctionne.
Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué au transport, grand merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos
merci
auditeurs
à
sur France Inter. Merci aussi à Fabrice Desmaz et Philippe Duclos à la technique. Grand merci à Adèle Domas et Pierre de Certaines pour la préparation de cette émission. Et merci bien sûr aux standardistes de Radio France.